Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Cinérama. Cinérama, c'est 30 minutes pour parler de cinéma. Alors, on a l'habitude soit de vous faire partager des interviews des comédiens ou des réalisateurs que nous rencontrons, soit nous jouons à des blind tests. Eh bien, aujourd'hui, ce sera un montage. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, puisqu'à chaque fois qu'il y a les Césars, eh bien, nous faisons un petit montage, un petit résumé de la cérémonie qui donc s'est déroulée vendredi 24 février. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu es seul dans les studios. Tu as deux films, voire trois.
Eh oui, trois, parce qu'il y a une reprise, donc La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Il y a Empire of Light, le dernier Sam Mendes, et puis The Son de Florian Zeller. D'ailleurs, titre un petit peu bizarre, parce que c'est quand même adapté d'une pièce française et réalisé par l'auteur de cette pièce. Donc, ils auraient dû l'appeler Le Fils, en toute logique.
Oui, mais ils avaient fait le même coup avec The Father.
The Father, ouais.
Oui. Précédent film. Marine nous parlera du barrage, et puis Manu, eh bien, nous parlera d'un film japonais, N'oublie pas les fleurs. Mais nous commençons avec le dernier film de Sam Mendes, qui, après le film de guerre, eh bien, fait une déclaration d'amour au cinéma et à son pouvoir consolant. C'est Empire of Light.
Non, mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Vous vous sentez comment en ce moment?
Je me sens un peu comme anesthésié.
Nous sommes en 1981 et l'un des cinémas Empire d'une station balnéaire est préféré à la chaîne Odéon pour la grosse avant-première des Chariots de Feu. Alors cet événement qui concerne le lieu où va se dérouler la majeure partie de l'action du film n'est en fait qu'une toile de fond, comme le lieu, pour parler plus précisément de deux de ses personnages principaux, Hilary, joué par Olivia Colman, et Stephen, interprété par Michael Ward. L'un est une femme qui a une santé mentale fragile et qui est directrice des services en plus de tenir la confiserie, et l'autre est un jeune homme noir qui, en attendant d'être accepté dans une école d'architecture, vient d'être embauché dans ce cinéma. Et ce qui oppresse ces deux êtres vont les rassembler pendant le bout de chemin qu'ils vont faire ensemble. Alors dès le début, nous annonce que ça ne va pas être très joyeux et même plutôt mortifère avec son cinéma qui semble un petit peu usé et sans véritable relief. Tout est statique, comme la majorité des plans, l'ensemble est sombre et peu entraînant. Le personnage d'Hilary est lui aussi un peu avenant. Il est même comparé au début à un mauvais coup au lit. Hilary couche en cachette avec son patron et personne ne semble prendre son pied. Mauvaise mine, mauvaise santé, n'en jetez plus. C'est bel et bien une métaphore du cinéma en 2023 auquel nous assistons. Tout du moins, le bilan qui en a été tiré ces dernières années, auquel le film espère, on s'en doute, trouver une solution en rappelant sa magie et sa nécessité.
Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader. Pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs.
C'était magnifique autrefois.
Ça l'est toujours.
Lorsque Stephen rejoint l'équipe, Hilary lui fait découvrir l'étage supérieur qui est condamné. Il y a en fait deux salles supplémentaires, abandonnées et transformées en pigeonniers. Tandis qu'elle lui parle de la beauté du lieu passé, lui se charge de souligner qu'il faut en parler au présent et que ça le reste au présent car c'est un autre monde. Et c'est véritablement là que l'on commence à s'enliser dans une série d'images et métaphores donc pas forcément mauvaises, mais assurément balourdes. Le sauvetage d'un pigeon, l'aile cassée, représentant autant Hilary que le cinéma, va permettre d'appuyer au détour d'un dialogue que ça serait merveilleux de retrouver sa liberté en pouvant voler. Alors on comprend de toute façon la profondeur des métaphores quand on apprend que le personnage d'Hilary, qui ne cherche qu'à renaître et à grandir, s'appelle Small, donc petit. Dans sa première partie, quand le film semble s'axer sur le cinéma, c'est intéressant. Lorsque les deux âmes en peine finissent inévitablement par s'unir, et ce malgré le caractère un peu improbable de la situation, on glisse sur des rails qui rendent au fur et à mesure les paupières assez lourdes. Et pourtant, le récit ne mettait pas de côté des choses intéressantes à traiter sur l'Angleterre de l'époque. Les problèmes sociaux, les manifestations de skinhead, la politique tout aussi agressive de Margaret Thatcher, Le film lançait également une piste passionnante pour parler intelligemment de mixité et d'union de gens de différentes origines et couleurs de peau, à savoir la musique de ces années-là, le mélange de reggae et de punk, Madness et tout ce qui alimentait la musique pop britannique des années 70 et surtout 80. Janine, hein, l'une des employées, est d'ailleurs coiffée ben, comme Siouxsie and the Banshees.
Personne ne va vous donner la vie que vous voulez.
Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu sais.
C'est à vous d'aller la chercher.
Sam Mendes a beau ramener du beau monde, hein, bah, dont le multi-oscarisé est habitué hein, du réalisateur, directeur de la photographie Roger Deakins, bah, il livre un récit tellement balisé sur des sujets aussi forts et importants bah, que la métaphore du cinéma que l'on pouvait voir en guise d'introduction bah, fait au final plus de mal que de bien au film, surtout à une époque où sortent beaucoup de films réfléchissant sur le pouvoir du cinéma et son importance sociale, bah, comme Babylon ou The Fableman, et l'abandonne hein, ensuite tristement dans sa seconde partie, bah, la rendant même anecdotique, alors que son pouvoir est censé être au centre d'une scène très importante. Donc la recherche éternelle de symétrie de Mendes fait penser à la fin de The Fableman, quand John Ford dit au jeune Sammy bah, que pour faire un beau plan, il faut mettre l'horizon en haut ou en bas, mais jamais au milieu. Mendes met toujours l'horizon au milieu, tandis que Spielberg se permet de casser le quatrième mur pour imprimer une leçon de cinéma mémorable avec une grande facétie. Alors la comparaison avec les deux n'est pas innocente, hein, car ce fut le premier hein, qui lança le second au cinéma en lui proposant le projet American Beauty avec le succès que l'on sait. Avec leurs deux films hein, sur le cinéma, bah, on voit une fois pour toutes, hein, qui est né pour le cinéma et qui reste avant tout ben, un fils du théâtre.
Empire of Light est en salle depuis le 1er mars. Voici un film métaphorique autant que politique qui nous emmène au Soudan. C'est Le Barrage de Ali Sheri.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Nous sommes au Soudan, près du barrage de Merov. Maher fait partie des nombreux travailleurs qui s'échinent à la briqueterie, une briqueterie traditionnelle que les eaux du Nil alimentent. La vie de ces travailleurs tourne autour du barrage et de ses eaux, dans lesquelles ils nagent, s'amusent et se lavent. Mais toutes les nuits, Maher part dans le désert pour bâtir en secret une statue de bois et de boue. Une statue qui prend de plus en plus de place dans sa vie, dans ses rêves et qui semble l'obséder. En parallèle, c'est la révolution qui commence, celle de 2018. Le peuple conteste l'omnipotence des militaires au pouvoir après que le général Al-Burhan ait effectué un coup d'État en suspendant la constitution et en arrêtant les membres du gouvernement. Un coup d'État qui a fait tomber le pays dans une grave crise économique et politique. La communauté internationale ayant suspendu l'aide financière pour le Soudan, afin de condamner les pratiques antidémocratiques de Burhan, ce qui a eu pour effet de plonger le pays dans une grande instabilité. Le Barrage, tourné au Soudan donc pendant la Révolution, est le premier long-métrage de fiction de Ali Sheri, plasticien libanais que l'on voit absolument partout puisque l'artiste vit à Paris, est en résidence artistique à la National Gallery de Londres et a récemment été récompensé à la Biennale de Venise. Ses premiers films, The Disquiet and The Digger, étaient des films d'art non conçus pour être projetés en salle de cinéma, des films qui interrogeaient la construction des récits historiques. Le Barrage, lui, s'est créé dans l'esprit du réalisateur au Soudan même, au fil de ses rencontres avec les gens et avec les lieux. Et les événements politiques se sont également immiscés dans le récit. Le pays a été fermé après que le tournage ait commencé et la pandémie a compliqué la situation encore davantage par la suite. La révolution soudanaise qui a perturbé le film l'a aussi nourri. Le film avait d'emblée un enjeu politique, comme l'explique Ali Sheri, lié au barrage, mais il était imprévisible que la politique y surgirait aussi explicitement. Par ailleurs, l'angle choisi place le protagoniste du film en marge des événements, puisque les travailleurs de la briqueterie, tout en étant au courant de ce qui se passe par la radio et par la télévision, n'y participent pas. Ils vivent en marge du monde, près du Nil. Le Barrage est un film étrange, un film envoûtant qui se regarde comme on lirait un poème pour la beauté de la forme et pour ce que le langage cinématographique fait naître en nous comme émotion. C'est un film très contemplatif, parfois presque abstrait. Si vous cherchez des dialogues à la Woody Allen, passez votre chemin. Le rapport dans le film du personnage à l'eau, aux éléments, à la nature, aux animaux, est directement inspiré par l'afro-soufisme, une religion ancestrale qui mêle animisme et soufisme et qui a été silencié au Soudan lors de l'arrivée au pouvoir de El-Bashir fin des années 80. À noter que l'acteur principal Maher El-Kahir est quasiment de tous les plans avec un chien qui a quand même une grande importance dans le déroulement du récit. Maher El-Kahir donc, qui est particulièrement imposant dans ce rôle, un rôle quasiment muet mais très habité, construit sur des jeux de regard et sur une présence physique assez impressionnante.
Le Barrage de Ali Chéri est en salle depuis le 1er mars.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
La 48e cérémonie des Césars s'est déroulée vendredi 24 février à l'Olympia. Cette année, nouveauté, on a eu le droit à une présentation multiple, même si Jamel Debbouze a longtemps tenu le crachoir. Alors, il y avait trois films qui cumulaient une majorité de récompenses. Il s'agissait de La Nuit du 12, de L'Innocent, hein, qui cumulait respectivement 11 et 10 nominations, devant Pacifiction et Encore, qui pouvait compter sur 9 nominations. Le seul film qui n'a rien eu, eh bien, c'est le film de Cédric Clapiche, même pas on a pu compter sur le son ou l'image, voire les décors. Évidemment, de tous ces films, c'est celui qui a attiré le plus de spectateurs en salle, et de loin. Mais les 4705 membres de l'Académie n'ont que faire de ces considérations. Encore qui a réuni alors 1,3 million de spectateurs et battu par Pacifiction qui en a réuni 50 000, puisque ce dernier film d'Almancera a reçu deux Césars, celui du meilleur acteur pour Benoît Magimel. Et c'était pas la première fois qu'il le recevait. Je suis à chaque fois surpris hein, qu'il le reçoive, mais bon, c'est comme ça. Et puis, le César de la meilleure photographie. Mais loin de moi l'idée hein, de favoriser de toute façon un film plus populaire, cependant je suis un peu surpris que le film de Clapiche sur une danseuse qui se reconstruit et qui bénéficie d'une remarquable séquence d'ouverture soit battu par un film La Nuit du 12 qui avance comme des milliers de films sans surprise. Bon, mais c'est ainsi. À noter que les femmes étaient insatisfaites de ne voir aucun film de femmes dans le dernier carré et qu'elles l'ont fait remarquer. Voici donc le condensé sonore de cette 48e cérémonie des Césars.
Bien, ouvre tes oreilles.
J'attendais ce moment avec impatience.
On est le cinéma ou on n'est pas le cinéma ? On est le cinéma !
C'est évident.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Nadia Tereshevski.
Les Amandiers, c'est un film que j'aime tellement.
Oh, mais voilà qui est pour moi une heureuse surprise.
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Bastien Bouillon.
Un César pour avoir gardé espoir.
C'est assez extravagant.
Et le César du meilleur court-métrage de fiction est attribué à
Partir un jour, Amélie Bonan.
À mes fils qui nous regardent à la télé, les gars, il n'y a pas que Mbappé qui peut ramener la coupe à la maison.
Très original.
Et le César des meilleurs costumes est attribué à
Gigi Lepage pour Simone, le voyage du siècle. Alors, le César des meilleurs décors est attribué à
Bravo Christian Marty pour Simone, le voyage du ciel.
C'est bien, c'est très bien, c'est très très bien pour le film. On est content, on est super content.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ceci.
Et le César du meilleur premier film est attribué à
Saint-Omer, réalisé par Alice Diop.
Vous allez quand même pas oser couper une femme noire en plein discours, mais si c'est possible. Donc je vais aller très vite.
C'est ça, c'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien.
Le César du meilleur court-métrage d'animation est attribué à
La vie sexuelle de Manu.
It's my first time speaking French.
Le César du meilleur film d'animation est attribué à
Ma famille afghane.
You will do it again and again and again.
Bon bah ça va.
Et le César de la meilleure actrice dans un second rôle est Noémie Merlant.
Maintenant, je pense aussi à toutes les réalisatrices, forcément, qui auraient dû être célébrées ce soir. Voilà, elles me manquent. Merci à tous.
Et pas sur le bec.
Le César de la meilleure musique originale est attribué à
Irène Dresel pour À plein temps.
Ça fait 48 ans que les Césars du cinéma existent, depuis ces longues années. 5 femmes ont précédemment été nommées, mais jamais aucune d'entre elles n'a été récompensée. Alors ce César, je le dédie surtout à toutes les femmes compositrices de musique à l'image. Merci.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Le César du meilleur court-métrage documentaire est attribué à Maria Schneider, réalisé par Elisabeth Soubou.
Vous êtes pressé ?
Et le César du meilleur film documentaire est attribué à Retour à Reims, réalisé par Jean-Gabriel Perrier.
T'as pas vu les effets spéciaux, mais montre-lui un peu les effets spéciaux.
Et le César
des meilleurs effets visuels
est attribué à Lorenz Herrmann pour Notre-Dame brûle.
Merci à Jean-Jacques Hano.
Vous avez énormément d'imagination.
Et le César du meilleur film étranger est attribué à Asbestas.
On est venu de Madrid, Isabelle Peña et moi, mon co-scénariste. Et quand on est venu dans les trains, on a dit... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est incroyable, donc merci beaucoup.
On va pas en parler sans 7 ans.
Un invité spécial qui a quelques liens avec notre pays, mais surtout avec vos films. Il se revendique comme votre partner in crime, Brad Pitt !
Calme-moi, Jean. Calme-moi !
Yes, I played
oui,
a part.
J'ai joué dans 3 films de David Fincher.
Hi.
Bonsoir, je m'appelle Brad Pitt. Et je suis un rescapé. Voilà ce qu'on peut entendre sur un plateau de David Fincher. Si on pouvait tourner ça, s'il vous plaît, avant qu'on perde tous le goût de la vie. Ok, maintenant on a la version floue si on la refaisait nette. Si tu panotes sur la droite et que tu revois ça encore dans le champ, tu as ma permission pour t'ôter la vie. Et une de mes préférées, je voudrais bien que vous vous amusiez tous, mais c'est à ça que ça sert les week-ends.
Très original.
C'est merveilleux. Et je dois dire que ça m'a pris par surprise parce que les films que je fais ont un peu tendance à être poil à gratter et les discussions qui commencent par l'ensemble de votre œuvre ne peuvent qu'évoquer des images d'hospice.
Votre comportement est intéressant.
Le César de la meilleure photo est attribué à Arthur Thor pour Pacific Fiction.
C'est un grand honneur d'être ici.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Le César du meilleur montage est attribué à Mathilde Van de Mortel pour À plein temps.
Tu avais une vision très très claire de ce que tu voulais dès le début. C'était un montage intense et passionnant pour moi. Merci infiniment.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Le César du meilleur scénario original est attribué à Louis Garrel, Tanguy Viel, Leïla Guiguet.
Merci pour ce beau prix. Je demande ici pardon à mes deux superbes collègues scénaristes pour toutes ces versions jetées à la poubelle.
Il y a un problème ? Je crois pas.
Le César pour le meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Bully Lanners dans La Nuit du 12.
Putain, je viens de Liège quand même.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Et le César de la meilleure actrice est attribué à Virginie Efira.
C'est trop chouette. En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances.
Et maintenant, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel.
Totalement irréel. C'est encore mieux la troisième fois.
Oui, possible.
Et le César du meilleur son est attribué à François Morel, Olivier Mortier, Luc Thomas pour La Nuit du 12.
Ce n'est pas terminé.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à Dominique Moll pour La Nuit du 12.
Et le César de la meilleure adaptation est attribué à Gilles Marchand et Dominique Moll.
Et si jamais vous vous demandez qui sont les meilleurs,
le César du meilleur film est attribué à La Nuit du 12. Produit par Caroline Benjo, Barbara Le Tellier, Carole Scotta, Simon Arnal. Réalisé par Dominique Moll.
Dans le film, deux personnages partagent ce constat. Il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. C'est un euphémisme.
Non, chère madame, nous ne sommes pas indifférents.
Je voulais aussi remercier les spectateurs et les spectatrices pour leur curiosité.
J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
On a la chance en France d'avoir un public qui a une vraie appétence pour les films qui sortent des sentiers battus. Et c'est, voilà, une curiosité qu'il faut entretenir. Merci beaucoup, merci.
Foutez-moi le camp !
Prochain rendez-vous avec les Césars, eh bien l'an prochain. Florian Zeller avait fait un coup de maître avec De Faveur, où l'on retrouvait Anthony Hopkins en proie à Alzheimer. Voici maintenant The Son, le fils.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Nicolas ne va plus en cours depuis presque un mois.
Donc oui, l'autre transfuge du théâtre dont il est question cette semaine est Florian Zeller, qui, après The Father, adaptation de sa pièce Le Père, nous livre The Son, adaptation de sa pièce Le Fils. Même si cela semblait cousu de fil blanc, vu que Le Fils a été, selon la critique de The Guardian, la pièce la plus acclamée de la décennie, c'est quand même pas rien, il était intéressant de voir comment Zeller allait s'en tirer avec son second film, vu le succès critique du premier, qui lui a valu 2 Oscars, celui de la meilleure adaptation pour Zeller, et celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Alors c'est amusant, car on parle aussi d'Empire of Light et de The Father dans notre actualité, et les deux, outre leur lien avec le théâtre, ont Olivia Colman comme point commun. Alors cette interprète prestigieuse, et le reste du casting, assez impeccable d'ailleurs, ne pourra cependant pas empêcher Zeller d'être frappé par la malédiction du second film, à savoir devoir prouver que le premier n'était pas qu'un coup de chance, tout en devant faire mieux. On va voir que sans être vraiment un mauvais film, The Son est beaucoup moins passionnant que ses promesses.
Je voulais te demander comment ça va ? Il s'est passé quelque chose ? Tu te rends compte que le lycée envisage de te renvoyer ?
Je peux vivre avec toi ?
Tu dis que tu ne te sens pas très proche des gens de ton âge.
Ton autre fils aussi a besoin de toi. Et tu travailles à longueur de journée.
Est-ce qu'il a réussi à parler du divorce ?
J'ai essayé de te soutenir, de te donner de la force. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te drogues ? Tu crois vraiment que tu peux vivre comme ça en faisant ce que t'as envie de faire ?
Je comprends pas ce qui m'arrive.
C'était le problème du Sam Mendes, c'est également le problème du Zeller. Passer du théâtre au cinéma demande un effort d'adaptation et la mise en scène ne se résume pas à des plans fixes, symétriques pour montrer la bonne assimilation ou non de personnages en proie à des doutes ou en décalage avec leur univers physique et mental. La version à grand écran de The Son n'est clairement pas le point fort d'un film qui n'incarne véritablement jamais son sujet et reste un témoin passif des événements. C'est d'autant plus gênant que l'intrigue, ses péripéties et son déroulé n'ont absolument rien de transcendant, se permettant même d'user frontalement le ressort du fusil de Tchekhov, de façon littérale et d'une manière assez vulgaire. Il n'y a jamais de plongée dans l'esprit de ce fils qui se sent en décalage complet avec le monde, qui cherche un bouc émissaire à sa souffrance et qui pense l'avoir trouvé en accusant son père de tous les maux parce qu'il est allé refaire sa vie avec une autre femme. Donc toutes les lumières sont focalisées sur Hugh Jackman, le véritable héros du film, qui cherche désespérément à comprendre un fils qui lui échappe. Si certains échanges sont bien sentis et certaines situations font frémir lorsqu'on se projette dans la peau d'un père légitimement mort d'inquiétude pour sa progéniture et qui n'a peur que d'une chose, c'est de ressembler à son propre père qu'il déteste et qui est un véritable monstre, le reste est beaucoup trop survolé pour véritablement intéresser ou toucher. The Son est un film à performance où les acteurs, Jackman en tête, sont véritablement formidables. Même si Vanessa Kirby n'arrive jamais à être un tant soit peu touchante, mais il n'arrive jamais à véritablement convaincre par son survol paresseux des choses. C'est ça le problème, on en sort sans surprise et sans bouleversement particulier, un comble tant les situations sont censées éveiller des émotions rencontrées, vécues ou intellectualisées dans nos existences. Alors il faudra voir si Zeller survivra à un travail proche de celui de Disney, qui réadapte en live son propre catalogue pour un résultat moindre. Et on se doute donc, parce que sa prochaine participation au cinéma sera The Mother, donc l'adaptation de sa pièce La Mère, qui bouclera sa trilogie familiale théâtrale, trop théâtrale peut-être pour le cinéma. À moins qu'il n'opte pour un Saint-Esprit, peut-être plus incarné.
Eh bien, nous nous retrouverons pour La Mère, puisque nous avions déjà chroniqué Le Père et maintenant Le Fils. The Son de Florian Zeller est en salle depuis le 1er mars. Pour son premier long métrage récompensé au festival de Saint-Sébastien, Genki Kamamura adapte son propre roman, c'est N'oublie pas les fleurs.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
La première séquence, sans doute la plus réussie et troublante de N'oublie pas les fleurs, montre une femme d'un certain âge explorant un appartement, le sien probablement. Par un effet de distorsion ou de fragmentation du temps, elle se voit en train de jouer du piano dans une pièce contiguë à celle où elle se trouve ou pense se trouver. En quelques plans, le réalisateur capte à merveille la sensation intérieure de confusion et de dissociation que peut provoquer la maladie d'Alzheimer, sujet central de ce premier long métrage de Genki Kawamura, adapté de son propre roman. Alors producteur de nombreux films d'animation, notamment ceux de Mamoru Hosoda et Makoto Shinkai, Genki Kawamura s'est largement inspiré d'une histoire personnelle, celle de sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Alors aussi intime soit-elle, cette histoire n'est pourtant pas des plus originales, s'engouffrant même par moments dans les pires travers du mélodrame tire-larme. Mais on est tout de même assez loin en fait, de la catastrophe de, par exemple, de se souvenir des belles choses de Zabou Breitman, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors si le film ne tient pas les promesses de sa magnifique et audacieuse entrée, hein, il n'est pas inintéressant non plus, notamment en ce qui concerne la construction du récit qui se dévoile progressivement. En effet, la simplicité du synopsis cache un film plus secret sur les rapports complexes liés à l'abandon entre une mère et un fils. Alors ce fils, c'est Izumi, hein, qui lors du réveillon de Noël retrouve sa mère Yuriko errant dans un parc par un froid glacial. Peu de temps après, donc, elle est diagnostiquée comme souffrant d'Alzheimer, sa mémoire déclinant rapidement. Alors il est tenté par un souvenir traumatisant alors qu'il n'était qu'un enfant, celui de la disparition de sa mère en un temps donné. Kawamura plonge alors dans les souvenirs de cette mère au passé troublant comme un effet miroir et inversé à sa perte de mémoire au présent. Le film raconte alors son aventure amoureuse avec un homme marié avec qui elle est restée un an. L'absence physique d'Izumi durant cette parenthèse d'une vie ne cesse de nous interroger. Qu'est-il devenu pendant cette période? Avec qui a-t-il vécu? Y a-t-il un père caché dans ce nœud familial jouant sur le non-dit? Intelligemment, le film ne répond clairement en fait à aucune question, laissant le spectateur se dépatouiller avec les images du film. Le retour au présent, inévitable, est bien moins passionnant. Kawamura emprunte là les voies du drame familial classique, hein, dessinant certes avec tact le portrait de deux êtres qui se sont éloignés l'un de l'autre. Prenant soin de sa mère, Izumi doit aussi accepter de la perdre à nouveau, sans doute pour toujours. Il tente pour la dernière fois de se rapprocher d'elle au moment où il va devenir père. Alors une certaine mollesse gagne en filigrane le film qui ne parvient pas à être aussi émouvant qu'il l'aurait souhaité, sans doute trop démonstratif, hein, dans son dernier acte, passage en force émotionnel qui révèle les côté factice des coutures du récit. Alors la mise en scène, hein, pourtant auréolée d'un prix au festival de San Sébastien, hein, est aussi hétéroclite qu'impersonnelle, alternant sans réel point de vue, stylisation et naturalisme, ne retrouvant jamais l'audace de ses premiers plans mystérieux. La lumière, hein, qui insiste beaucoup sur les tons jaunes, est très belle, mais l'ensemble manque de consistance et d'aspérité, surtout dans le traitement de la maladie. Le regard délicat du cinéaste s'accompagne aussi de facilité scénaristique et d'une issue pour le moins convenue. Genki Kawamura, hein, signe un joli film assez désincarné, avec beaucoup d'éclat, hein, qui doit beaucoup au charme de ses interprètes, à commencer par la vétérante Mieko Harada, hein, magnifique dans le rôle de la mère. Alors les amateurs de cinéma japonais seront aux anges, hein, puisqu'elle a partagé l'affiche de nombreux films de Akira Kurosawa, mais aussi Yasuzo Mazumara, sont des cinéastes connus, hein, ou encore Fukasaku.
N'oublie pas les fleurs, est en salle depuis le 1er mars. Allez, nous terminons l'émission avec une ressortie du 22 février. C'est un film mythique, c'est La Nuit des Morts Vivants.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Il s'agit du tout dernier rapport provenant du quartier général de la défense civile à Washington. Nous avons maintenant la preuve que des êtres récemment assassinés ont retrouvé peu de temps après la vie et ont immédiatement attaqué d'autres personnes. Les pompes funèbres, les morgues et les hôpitaux sont arrivés à la conclusion suivante. Tous les morts, non ensevelis, reviennent à la vie, recherchant de nouvelles victimes. Il est difficile de croire ces dépêches, mais toutes ont été soigneusement vérifiées et reflètent la vérité.
L'occasion d'aller voir La Nuit des Morts Vivants donc sur grand écran, donc le premier film de George Romero, bah c'est l'occasion d'enfin voir le film tel qu'il est censé avoir été fait et tel qu'il est censé avoir été conçu. Hein, parce que la particularité de ce film, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un film qui, étant donné qu'il a été libre de droit tout de suite, hein, il y a à la suite d'un problème de confection de générique, bah le film était un petit peu distribué et diffusé n'importe comment par tous les gens qui y ont mis la main dessus. Donc là, pour le coup, vous avez à avoir une restauration proposée en 4K et enfin aux normes, j'ai envie de dire, qui permettra de voir le film sur grand écran, dans une copie splendide, elle est vraiment sublime, et qui va vous permettre donc, du coup, de remonter à l'origine de ce film fondateur, hein, cette petite série B, qui aurait très bien pu être une série Z complètement oubliable, mais qui va littéralement lancer le genre du film de zombie. Alors on le rappelle très rapidement, le genre du film de zombie, à la base c'était inspiré du mythe vaudou, hein, où le zombie était plus un esclave qu'autre chose. Là, George Romero, avec sa petite bande de Pittsburgh, va littéralement inventer un genre à lui tout seul. Et donc, ça va donner La Nuit des Morts Vivants, le premier film d'une longue série, tout aussi inspirée, mais qui va à elle seule marquer l'histoire du genre. Donc, on ne reviendra pas sur certains détails, hein, comme l'emploi d'un acteur noir comme personnage principal, parce que Romero lui-même ne s'en cache pas, c'était plus grâce au talent, hein, de ce casting qui a permis à Dwayne Jones de remporter le rôle qu'une véritable, j'ai envie de dire, revendication politique. Mais il n'empêche que, bien évidemment, quand le film sort en 1968, au moment même où Martin Luther King se fait abattre, ça donne une aura particulière à ce chant crépusculaire qu'est ce film. Donc voilà, on ne peut que vous recommander d'aller voir le film, de le redécouvrir, parce qu'au final, vu son âge, on est très peu à l'avoir vu ce grand écran.
Maintenant, nous sommes bien barricadés. Mais davantage en sécurité.
Il s'agissait d'un phénomène dépassant toute logique.
On a une arme, des balles, de quoi manger et une radio.
Une personne semble avoir un comportement suspect.
On s'en sortira sûrement.
Prévenez-nous.
Bon, je vais monter à l'étage.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, on se retrouve avec deux interviews, celle de Alex Lutz pour En plein feu et puis celle de Julie Gayet pour Comme une actrice. Et puis nous parlerons aussi du dernier film d'Aronofsky, The Whale, et puis de Scream, le 6. À la semaine prochaine.
Rester ici, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Il y a plein de fenêtres partout et toutes ces fenêtres, il faut que nous les renforcions pour qu'ils ne puissent plus rentrer ici.
Ils n'ont aucune force physique, je vous l'ai déjà dit. J'en ai tué 3 que j'ai foutu dehors sans aucune difficulté.
Ils ont renversé ma voiture, je te l'ai dit. Et ça aussi, ils l'ont fait sans difficulté.
Oui, et alors, 5 hommes, il suffirait dans ce cas.
Ben, c'est bien pour ça. Seulement, ils ne seront pas 5, ni même 10, mais ils seront 20, 30, peut-être même une centaine à venir. Ils savent que l'on est là. Ils passeront en force pour nous envahir.
S'ils sont aussi nombreux, ils nous trouveront où que nous soyons cachés, vous êtes d'accord ?